générique l'annonce bien, nous sommes au Club de la Presse. Monsieur Zidane, bonjour et bienvenue à ce troisième numéro de l'émission Club de la Presse. Nous sommes au mercredi 18 janvier 2023. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission d'analyse et d'actualité. Je suis Pascal Lossou au micro. Michel Vitogbe Tomega est à la mise en onde lors de cette émission et la mise en ligne est assurée par Gérald Akucha. Nous sommes également disponibles alors sur nos différents canaux numériques, mais aussi vous pouvez nous suivre à l'intérieur du pays grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et bien sûr Radio Courtoisie à Dapan. Club de la Presse, c'est avec des invités en studio avec moi, des invités, des confrères journalistes et invités aussi alors dans cette émission. Alors, mercredi, ça rime souvent avec santé, éducation et vous savez très bien que l'homme qui répond bien à la santé, éducation, alors c'est Gadiel Tonadi. Gadiel est en studio avec moi. Gadiel, bonjour.
Pascal, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Canal FM et puis on renouvelle nos voeux de santé, de bonheur à tous les auditeurs de cette chaîne.
Vous êtes de retour.
Oui, nous sommes de retour. Le premier numéro de cette année 2023, le numéro 701, avec... on annonce déjà les couleurs de 2023. Nous serons plus au niveau de la promotion de la santé selon nos connaissances au Togo, en Afrique et selon nos besoins. C'est absolument important. Donc, santé, éducation, c'est parti.
C'est parti. Alors, déjà à la une ce matin, comme vous avez l'habitude de le faire, vous avez des recettes et aussi des propositions hein, pour la bonne santé, pour le bien-être surtout de nous tous ou des populations. Ce matin, vous titrez à la une Danigbe, prévenir et traiter le diabète. Qu'est-ce que c'est déjà Danigbe?
Danigbe, c'est une plante qui prend le nom de la localité Dani, qu'on connaît bien, une localité qui est aussi sur les plateaux de Daï, dans ce qu'on peut appeler dans le Grand Coteau. Et c'est une plante qui est caractéristique à son goût très amer et qui très souvent est utilisée pour soigner les douleurs au niveau gastrique. Donc, des gens ont des douleurs au niveau du ventre, on leur fait une petite infusion d'Anigbe et puis ça passe. Alors, il y a une étude qui est faite. Les études continuent, hein, surtout sur le plan africain. Il y a même un scientifique togolais qui a fait des études sur cette plante-là et qui prouve que les diabétiques peuvent trouver leur compte avec Danigbe. Dans cet article, nous revenons un peu sur les recherches que ce chercheur togolais a faites et puis comment il prouve que à base d'une recette qui se trouve dans l'article, ceux qui sont en surpoids, ceux qui sont obèses, ceux qui sont des pré-diabétiques et ceux qui sont des diabétiques peuvent utiliser cette recette de Danigbe pour prévenir ou bien pour traiter la maladie. Vous savez, au Togo, selon les dernières données, 6% de Togolais sont des diabétiques. Bon, ces chiffres, on peut toutefois les voir à la hausse.
6%, c'est quelque
donc,
chose.
C'est déjà grand, c'est déjà grand. Et attention aux dommages causés par le diabète. Beaucoup sont des diabétiques, beaucoup sont des pré-diabétiques, ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont jamais fait le test. Donc c'est absolument important que nous revenions sur cette maladie. Durant toute l'année, nous allons beaucoup parler du diabète. Donc une recette dans cet article à base d'Anigbe pour essayer de prévenir le diabète.
Et il est très important de faire le test et de savoir son état, surtout.
Absolument.
C'est important.
Absolument.
Voilà. Alors, vous, à part le diabète, vous vous intéressez aussi à l'hypertension. Vous titrez « Hypertension, quand et comment prendre les médicaments ?»
Voilà. Donc, l'hypertension, plus de 30% de Togolais sont des hypertendus. Vous voyez là, la cause est encore très grave. C'est absolument important. C'est pourquoi durant cette année 2023, nous allons beaucoup revenir sur ces deux pathologies qui créent beaucoup de dommages au sein de la population. Quand vous allez dans les hôpitaux, beaucoup sont venus pour des complications dues au diabète, pour des complications dues à l'hypertension artérielle. Alors, dans cet article, il s'agit de la prise des médicaments. Ceux qui sont sous médicaments de l'hypertension artérielle, donc il y a une étude qui est faite en Europe et qui jette une nouvelle piste de traitement. Très souvent, nos prescripteurs en Afrique, au Togo, demandent aux patients de prendre le médicament le matin. Bon, il y en a qui le prennent sur le ventre vide. Ça aussi, c'est une autre question. Mais très souvent, on demande aux médecins, aux patients de prendre ces médicaments le matin. L'intérêt, c'est que le matin, que la tension soit régulée pour que la personne puisse vaquer à ses occupations sans aucun danger. Mais l'étude là dit que il y a deux sortes d'hypertension. Il y a une hypertension qui est plus remarquée pendant la journée et puis une hypertension qui est plus remarquée chez beaucoup de patients aussi pendant la nuit. Alors, cette recherche fait un clin d'œil aux prescripteurs de voir avec les patients de quelle sorte d'hypertension est question et de pouvoir varier le traitement de l'hypertension, le traitement de cette maladie ou bien la prise des médicaments. Donc, c'est un sujet très important qui s'adresse et aux médecins et aux patients. Vous voyez, très souvent, vous allez voir des gens qui sont sous médicaments d'hypertension, mais ça ne passe pas. Ils disent ça ne passe pas, la tension monte toujours. Donc, il y a un problème. Donc, c'est un article que nous dédions à tous les médecins qui sont dans ce cas et puis aux populations, les hypertendus, à lire et puis il faut réagir vite.
Là aussi, le test aussi est encore important là-bas pour
tout à fait, il faut faire
savoir son état.
Tout individu, vous savez, en début d'année, tout individu doit prendre au moins sa glycémie et puis sa tension.
Tout à fait.
C'est la petite chose qu'on peut faire pour voir si on est en petite bonne santé pour vaquer aux occupations.
Vous intéressez également aux repas copieux après avoir mangé, après avoir pris ces repas. Vous proposez 6 infusions que nous devons boire pour une bonne digestion.
Oui, pendant les fêtes, nous mangeons beaucoup. Vous savez, les fêtes sont derrière nous pas très longtemps. Pendant les fêtes, on ne met pas de limite. On mange beaucoup de choses, on boit beaucoup de choses. Et c'est une surcharge pour l'organisme. Vous voyez, en ces temps-ci, il y a des gens qui se sentent très lourds. Ils se sentent lourds, ils se sentent fatigués. On dirait qu'ils n'ont pas démarré, ils n'ont pas bien démarré l'année.
L'année, voilà.
Voilà. Il y en a même qui souffrent de l'insomnie. Donc, cela est dû sûrement à tout ce qu'on a ingurgité pendant les fêtes, au taux d'alcool qu'on a pris et tout et tout. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'aide d'un spécialiste qui propose 10 jours pour pouvoir décharger l'organisme. Donc, c'est un article. On va parler dans les détails que nous recommandons à nous tous, hein, parce que je pense que tout le monde a quand même mangé quelque chose, a bu quelque chose pendant les fêtes. Comment on peut décharger l'organisme pour ne pas éviter, je veux dire, de tomber malade.
Voilà. Alors, les hommes doivent se réjouir aussi en voyant le titre ou les titres alors de votre parution.
Absolument.
Ce matin, parce que vous proposez également une recette pour l'érection et vous dites que le jus de grenade peut booster l'érection.
Nous écrivons, vous savez, la sexualité est une rubrique dans Santé et Éducation. Pourquoi ? Parce que une écrasante majorité de nos lecteurs sont intéressés par cela.
Tout à fait.
Et nous écrivons pour les couples, les hommes et les femmes mariés qui doivent bien gérer leur vie sexuelle. Alors, le jus de grenade, la grenade, c'est un fruit que nous avons chez nous, que beaucoup méconnaissent, mais très vertueux. Et ce côté aphrodisiaque, nous le découvrons. Comment faire le jus de grenade pour chauffer la libido? Et chez l'homme et chez la femme, c'est ce que nous mettons dans cet article. Il n'y a pas de commentaire. C'est à madame, à monsieur de chercher cet article à lire et à faire rapidement la pratique.
Il n'y a pas de commentaire. Non, je pense quand même que ce sont des articles qu'on peut lire dans votre journal d'aujourd'hui.
Absolument.
Et que nous pouvons retrouver même d'ailleurs dans les kiosques et dans les bacs.
Cette année, nous produisons plus pour nos abonnés. Vous savez, ceux qui veulent avoir le journal papier, d'avoir appelé nos numéros pour s'abonner et avoir l'apparition physique. Mais notre produit phare, c'est le journal numérique qui est disponible sur nos sites internet à télécharger à 500 francs.
Merci beaucoup, Gadiel. Et vous restez avec nous à la fin de cette émission pour surtout votre carton de fin d'émission, bien évidemment. On en parlera tout de suite. Retour dans cette émission, émission Club de la Presse. D'autres invités également qui nous ont rejoints dans cette émission. Joachim Loco, Joachim, bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal, bonjour aux fidèles auditeurs, auditeurs de Canal FM.
Voilà, j'espère que c'est pour la première fois, surtout dans cette année, que tu retrouves le micro de Canal FM et les auditeurs surtout.
Et bien entendu, c'est la première fois. Je voudrais profiter de l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs à tous les auditeurs de Canal FM, mais par ricochet à tous les lecteurs de Matinée Internationale et de Tournir le Monde qui va faire son retour dans les kiosques la semaine prochaine.
Merci beaucoup. L'autre confrère qui est avec nous, c'est le plus béni des journalistes. Sylvestre Freddy, bonjour.
Le seul béni des journalistes, pas le plus béni, le seul béni.
Il y a d'autres aussi qui sont bénis, je suis béni moi aussi.
Je suis le seul béni de la corporation, c'est pas à discuter. Alors bonjour donc à tous les auditeurs, auditrices donc de Canal FM, voilà.
J'espère que tu vas bien.
Oui, bon, voilà, qu'on remercie Dieu.
L'essentiel est qu'on remercie vraiment Dieu. Alors, les parutions ce matin traitent alors de différents sujets. Bien évidemment, ces sujets commentés dans la presse, nous serons à mesure alors de décrypter ces sujets. Sylvestre, à la une de votre journal La Machette ce matin, vous titrez « Tidianisation de Katanga, l'histoire est têtue ». Et également, quand on prend le triangle des enjeux qui titre à la une alors de son journal, attaque du domicile du député du RPT en 2009, le trop puissant Bourreau et le trop impuissant Kpatia Nyasimbe doit-il en rire ou en pleurer? Alors, quand on prend votre journal, je veux bien parler de vous, Sylvestre, tidianisation de Katanga, l'histoire est têtue. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Alors, lorsque vous prenez le journal Tidjanisation donc de Katanga, l'histoire est têtue, vous verrez que nous avons juste faire un jeu de mots. Tidjanisation, ça nous rappelle donc le général Hassani Tidjani. Le général Hassani Tidjani qui était donc ce général tout feu, tout flamme, tout puissant donc du régime togolais et qui a fini un beau matin donc dans une histoire donc de coups de force en préparation et qui a été condamné. Vous l'avez lu tout à l'heure sur un journal donc dans l'affaire donc Kpatia Nyasimbe qui a été condamné donc à 20 ans de prison parce que on estimait qu'il voulait renverser donc le régime du président Faure Nyasimbe au moment où celui-ci devait quand même effectuer un voyage en Chine. Alors lorsque vous reprenez l'histoire, pourquoi nous disons que l'histoire est têtue, vous verrez que celui-là qui était presque qui a dirigé les opérations au domicile de Kpatia Nyasimbe à l'époque, c'était donc le colonel Félix Abalo Katanga, qui est aujourd'hui le général. Donc c'est lui qui était à la tête donc des opérations, et c'est lui aussi qui a témoigné au cours du procès. Nous avons pris soin de rappeler quelques-uns de ses propos tenus donc au cours de ce procès là. Donc c'était un colonel tout feu tout flamme qui est devenu général tout feu tout flamme que nous avons connu et qui à la lue au vent les choses est peut-être donc en train donc de suivre donc la malheureuse aventure donc du général Hassani Tidjani puisque on nous dit il y a quelques jours qu'il est donc à garde à vue pour une affaire donc le concernant. Et nous disons qu'on ne met pas un général à garde à vue s'il n'y a pas suffisamment donc d'éléments contre lui.
Puisqu'un général, ce n'est pas n'importe qui.
Voilà, c'est pourquoi nous disons ce matin qu'on ne peut pas mettre un général à garde à vue l'enquête n'a pas tellement évolué et peut-être à un moment donc de l'enquête, il est quand même bon tant qu'on puisse et l'avoir et l'écouter. Pour l'instant, il a selon les informations là, David, donc l'écouter et avoir également sa version des faits. Donc nous sommes là, on verra donc la suite de cette histoire là qui malheureusement et ou heureusement, ça dépend donc de la manière dont vous savez dans cette histoire chacun tire les droits de son côté. Nous voulons être objectifs, fabuleux, heureusement ou malheureusement donc Il est en train donc de suivre malheureusement le pas donc de son aîné Hassani Tidjani. Mmh.
Alors toujours à la une alors du journal Le Triangle des Enjeux, on retrouve ce titre: le général Félix Katanga y est si intouchable aujourd'hui, si faible. Et la Lanterne également qui titre à sa une FAT: le général Katanga, l'homme fort d'hier mis aux arrêts, les intouchables d'hier touchés aujourd'hui, à qui le tour? Joachim, finalement, on dirait toujours que c'est un événement qui s'est passé. Si c'est vrai, aujourd'hui, nous n'avons pas encore assez d'éléments pour cette actualité. Surtout que nous n'avons pas alors une note officielle sur cette arrestation. C'est vrai que les journaux sont revenus alors sur le sujet aujourd'hui. Et depuis la semaine passée même d'ailleurs, l'information court dans la presse et sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on dirait même d'ailleurs que c'est un événement. C'est quelque chose qui s'est passé.
Non, mais c'est un événement, bien entendu, puisque les journalistes ont eu à vérifier l'information. Ça, c'est l'information, elle est avérée, et donc c'est un grand événement. Comme vient de le dire mon confrère, ce n'est pas tous les jours qu'on met un général au Niouf. Et donc, mais ce que nous déplorons, c'est que les autorités ne communiquent pas. Quand on prend quelqu'un qui a assumé les hautes responsabilités d'un pays comme le Togo, quand il est au Niouf, c'est quand même bien séant qu'on communique un peu, qu'on essaie de dire à l'opinion ce qui s'est passé. Ce n'est pas le cas, c'est ce qui veut dire que ça, ce n'est pas normal. De toutes les façons, les journalistes ont eu à fuiner un peu partout. Bon, nous avons des bribes d'informations, mais il va falloir que les autorités confirment ces informations-là. Et c'est pour cela que vous verrez que dans la presse, tout le monde essaie d'aborder le sujet avec tact, puisqu'on dit que c'est un sujet un peu sensible. C'est une affaire un peu grave. Bon, pourquoi est-ce que du jour au lendemain, un général si puissant, qui a été chef d'état-major, pourquoi on le met au Niouf là? Il va falloir que les autorités judiciaires nous élucident.
Sylvestre, il est très important quand même qu'on nous clarifie sur cette histoire ou sur ce sujet.
Je comprends parfaitement l'impatience donc des Togolais, sinon donc de nous de la presse de connaître donc les tenants et les aboutissants de cette affaire, c'est-à-dire d'avoir donc la quintessence ou l'information, qu'est-ce qui s'est réellement passé.
Oui.
Mais je vais juste faire un feedback, faire un rapprochement pour dire que lorsque dans l'affaire Pacha Gate, l'affaire donc de l'affaire de coup d'État, bon, entre guillemets, parce que ça a subi quand même tellement de modifications lors du procès, on parlait de coup d'État, on parle de complot, d'atteinte, il y a tellement donc de qualifications quand même du fait. Mais je voulais faire observer que concernant Pacha Yassine, mais vous avez vu que après son arrestation, le corps du délit a été présenté à la presse, à la gendarmerie, vous vous rappelez, avec des téléphones Churaya, des Rangers, des fusils et tout. Et deux jours après, c'est-à-dire le 17 avril, le chef de l'État a fait un discours à la nation. Vous vous rappelez quand même,
tout à fait.
Du 17 avril 2009, il a fait un discours à la nation où il regrettait même le fait que ce soit un parent qui soit peut-être le cerveau, présenté comme le cerveau donc de ce coup de force en préparation. Mais ici, on ne nous dit rien. Donc c'est pourquoi je dis que peut-être que l'affaire a une certaine connotation, une certaine sensibilité, et qu'il faille attendre qu'on aille au fond donc de l'enquête avant donc de communiquer. Peut-être que le général qui est aujourd'hui en garde à vue n'est pas peut-être le seul qui est impliqué dans l'affaire qu'on lui reproche, peut-être, je le dis. Donc il faudrait ratisser l'arche, il faudrait qu'on puisse aller au fond pour avant de communiquer, vous voyez. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est vrai que nous sommes impatients, nous voulons savoir ce qui s'est réellement passé, mais je crois que tôt ou tard on saura. Mais souffrons quand même que pour un général quand même de cette stature qui est en garde à vue, bon, on peut pas peut-être prendre un mégaphone et dire tout de suite que voilà quoi ce qu'il a fait.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc on attend la clarification alors dans cette affaire. Et nous quittons rapidement cette affaire pour parler de la déclaration des biens. Sylvestre, à la une de votre journal ce matin, vous écrivez « Hâte au dilatoire commencé ». On se souvient, on sait très bien que tout récemment, au Conseil des ministres, et ça a été décidé même d'ailleurs, qu'il y aura une sensibilisation des populations population sur le sujet. Mais ça veut dire tout simplement qu'avec la sensibilisation, ce serait encore du dilatoire.
Non, pourquoi parlons-nous de sensibilisation? Je fais observer que la déclaration des biens et des avoirs est déjà dans notre constitution de 1992.
Tout à fait.
Vous prenez la constitution d'article 145, vous verrez qu'il est clairement dit que le président de la République, le premier ministre, sinon les grands commis de l'État, doivent déclarer leurs biens avant, c'est-à-dire au début de leur mandat ou au début de leur fonction et à la fin. Et il est dit aussi que ce devait se faire au niveau devant la Cour suprême et tout. Mais en 2019, je crois, oui, en 2019, le gouvernement actuel, le gouvernement a fait un projet de loi, ça doit être le gouvernement Classo, oui, le gouvernement a fait un projet de loi qui a été entériné par l'Assemblée nationale le 30 septembre 2019, oui, et qui donne maintenant les orientations possibles, c'est-à-dire une organisation devait quand même réglementer cela, comment cela doit se faire, qui doit recevoir donc ces biens et ces biens à voir, donc tout cela a été fait et ce devait être donc devant le médiateur de la République. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons tous les tests, tout est fait prêt pour qu'on puisse commencer la déclaration des biens et des avoirs. Je fais en sorte que de 92 à aujourd'hui, vous avez vu que c'est du temps fou qu'on a passé, alors qu'il y a tellement donc de personnes qui ont occupé quand même de hautes fonctions dans ce pays. Et le chef de l'État lui-même, le 26 avril 2012, disait que c'est un petit homme qui accapare donc les richesses nationales au détriment de la majorité. Il poursuit en disant que cela crée un déséquilibre nuisible qui menace donc la démocratie et le progrès. C'est ce qu'il disait en 2019. Et donc plus tard, on a voté cette loi-là. Donc on devait déjà commencer à recevoir donc la déclaration des biens et des avoirs. Maintenant, nous sommes en 2023 et on nous dit que non, on va faire une sensibilisation pour que cela puisse. Non, écoutez, qui va sensibiliser qui? Hein, le président,
c'est le gouvernement qui sensibilise
la population. Le président est nigérien, et comment vous l'appelez, Mohamed Bazoum. Quand il est arrivé, il a fait sa déclaration des biens. Il a même communiqué qu'il a des chameaux et tout. Hein, vous voyez. Donc il faudrait véritablement que quelqu'un puisse commencer. Et qui peut donner l'exemple? C'est le chef de l'État. Il donne et puis tout le monde va suivre. Si le chef de l'État le fait, je me dis que tout le monde va le faire. Aujourd'hui, dans notre République, les agents de l'ETS, sinon donc les cadres de l'ETS, bon, les agents de l'ETS le font. Hein? Apprécia, j'ai appris aussi qu'eux aussi déclarent leur bien et avoir. Est-ce que quelqu'un les a sensibilisés avant de le faire? Non! Donc il faudrait que la loi et le test est là, commencer. C'est ce que j'ai dit ce matin. Alto dilatoire maintenant. Bon, commençons.
On doit commencer. Alors, Jachin, alors finalement, comme le dit Sylvestre, tout est fait prêt pour que du moins on commence par déclarer les biens et les avoirs. Est-ce que ce retard, ou du moins ce temps qu'on laisse, est-ce que ce temps doit, en quelque sorte, faire craindre un certain nombre de choses?
Oui, bien entendu, ce temps doit craindre un certain nombre de choses parce que, comme c'est inscrit en lettres d'or dans nos tests, les tests de notre République, je pense quand même que c'est quand même bien que on commence, qu'au moins quelqu'un commence. Et si quelqu'un doit commencer, ça ne peut être que les membres du gouvernement pour donner l'exemple aux autres que nous devons déclarer nos biens, surtout ceux qui auront la lourde charge d'exercer et les premiers rôles dans ce pays. Je pense quand même que la loi a été faite pour dissuader les gens de détournement, c'est-à-dire la corruption, c'est la lutte contre la corruption, et à chaque fois nos autorités sont en train de prôner cette lutte contre la corruption. Donc il va falloir que les plus hauts responsables du pays tapent du poing sur la table pour que cela puisse commencer, et c'est à eux de donner l'exemple pour que les autres puissent suivre le pas.
Nous sommes rejoints entre temps par Abbas Issaka du Mania Libéré. Abbas, bonjour.
Bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment.
Abbas, nous sommes en train de discuter surtout de cette question de la déclaration des biens et avoirs. Et finalement, déjà, comme le dit Sylvestre ce matin, ça accuse de retard. Et il faut commencer.
Oui, ça a pris du retard parce que quand ça a commencé, c'est inscrit dans la loi, dans la constitution togolaise. Donc la loi doit être respectée. Mais la loi dit que ça a la prise de fonction, qu'on doit le faire. Maintenant, les gens sont déjà en fonction. On leur demande de déclarer leurs biens. Quels biens vont déclarer? Les biens des fonctions en cours ou bien leurs biens avant leur prise de fonction? Donc il y a tout ça là qu'il faut voir. Aujourd'hui, il y a un petit problème qui se pose. Je ne sais pas, là on dit la loi intérieure, on n'a pas retenu, mais la loi qui est là, ce n'est pas une nouvelle loi qui a été votée. Ce n'est pas une nouvelle loi, c'est une ancienne loi. Du moment où les gens viennent prendre fonction, ils doivent déclarer ce qu'ils avaient. Et à la fin, on voit ce qui s'est passé. Mais maintenant, les gens, tout le monde l'a conduit à aller déclarer, les gens sont en pleine fonction. Ils ont déjà accumulé des biens. Sur quoi ils vont faire cette déclaration des biens? C'est la question qui se pose. Est-ce qu'ils vont dire qu'avant mon arrivée, voilà ce que j'avais? Ou après, voilà depuis combien de temps je suis entré en fonction, voilà, je vais déclarer tout. C'est ça aussi, il y a chose. On a vu que c'est il y a déjà un an, je crois que la présidente chargée de la déclaration de Madame Awanana avait aussi dit que les gens devaient passer. On a cité là même ceux-là qui sont concernés par cette déclaration des biens. Mais jusqu'à ce jour-là, on n'a pas trouvé quelqu'un qui allait déclarer. Et cette déclaration des biens, même si on le fait, on ne sait pas comment, combien la personne, puisqu'on dit que c'est sous pli fermé. Les gens viennent déposer que voilà ce que j'ai. Sous pli fermé, personne n'est au courant de ce qu'il a fait. Donc moi, j'ai dit que ça a pris du retard ou ça n'a pas pris du retard, c'est un peu problème. L'essentiel, si on ne veut pas là, qu'on attende aux prochaines élections, le jour que quelqu'un va prendre fonction, on le fait. Parce que quand vous prenez les agents de l'OTR, tous les agents de l'OTR, avant de commencer de prendre fonction, ils doivent déclarer leurs biens.
Tout à fait.
Ils sont tenus de le faire. Parce que c'est la loi qui exige cela à leur niveau. Aujourd'hui, la Constitution exige cela, mais on n'a pas fait ça. On est venu en retard pour dire qu'il faut déclarer les biens. On n'a pas commencé par respecter la loi. C'est aujourd'hui qu'on veut commencer par respecter la loi. Donc c'est la situation que moi je présente, quoi.
Mais est-ce que ce n'est pas pour cela qu'aujourd'hui les gouvernements choisissent plutôt alors de sensibiliser la population sur cette question de déclaration des biens et avoirs?
Oui, mais ce n'est pas la population qui doit déclarer les biens.
Tout à fait, mais...
C'est les agents de l'État concernés. Il y a les classes qui sont... les gens qui sont concernés par cette déclaration, ils se connaissent. Est-ce que ça, la population... d'aller demander aux gens d'aller déclarer les biens alors que la loi a déjà dit déclarer vos biens.
Est-ce qu'on
va sensibiliser la population, on va aller sensibiliser les paysans dans nos localités, dans nos villages pour dire que on a dit de déclarer les biens alors que ça ne les concerne pas. Ceux qui sont concernés, on les connaît. La loi les a cités nommément. Donc on ne peut pas dire qu'on sensibilise la population. Ça, c'est, je pense qu'il faut arrêter de sensibiliser, mais le temps qu'on va prendre pour sensibiliser, ceux-là qui ont déclaré doivent aller déclarer leurs biens au lieu de dire on veut déclarer nos biens. On va sensibiliser les gens, les populations sur la déclaration des biens. Mais le jour où on avait pris cette loi-là, on avait commencé, quand madame a été installée, tout ça là, en ce moment on devait commencer. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont croire qu'on fait du dilatoire dans cette histoire en parlant de sensibilisation de la population. Il faut qu'on soit clair, c'est-à-dire la loi est dans... La chargée, madame Onana, a déjà lancé l'opération. Et maintenant, on dit, non, qu'on veut sensibiliser encore la population. À faire quoi? Je sais pas.
Et pour vous, c'est une perte de temps, Sylvestre?
Non, moi, je l'ai déjà dit, c'est une perte de temps. Et puis, et le fait même de déclarer les biens en catimini, hein, c'est-à-dire sous pli fermé. Non, écoutez, c'est pas bien. Il faudrait quand même que cela soit public. Lorsque vous prenez, c'est-à-dire ceux qui nous écoutent, vous prenez votre téléphone portable, vous allez sur le site donc de la haute autorité de la transparence de la vie publique en France, vous allez là, vous tapez et n'importe quel ministre, vous avez son parcours. Hein? Si j'ai travaillé dans tel cabinet, voilà ce qu'on lui a payé et tout ça est là. C'est-à-dire que le citoyen lambda français sait le parcours d'un ministre, c'est-à-dire ce qu'il a fait avant d'être ministre. Et le monsieur a déclaré ses biens. Et à la fin, on saura, on aura encore, on verra avant ce qu'il avait. Et après, on pourra mieux gérer cela. Maintenant, si on prend cela sous pli fermé, et vous et moi, on ne sait pas ce qu'il a déclaré au début. Et à la fin, après ça et ses fonctions, le monsieur vit dans une vie de pacha et tout ça. Ben, si on ne connaît rien, bon, voilà, on n'a rien à lui reprocher. Voyez-vous,
tout celui qui tout commis de l'État, hein, des gens, c'est-à-dire selon les dispositions de la loi, doit déclarer cela et rendre cela public. Comme ça, et mon jeune frère qui est à Djingri ou à Paratao, et qui sait que peut-être tel ministre avait véritablement caché cela et qui n'a pas déclaré, on pourrait véritablement lui rappeler cela. Voyez-vous, donc ça, c'est pourquoi je dis que d'abord tout ce qui concerne donc ces déclarations, on veut tout faire donc entre amis, entre copains, et après bon, on dira que oui, c'est fait. Je crois que c'est pas ce que veulent les Togolais en réalité. D'abord, il faut déjà commencer à déclarer.
Voilà.
Non, mais moi je pense quand même que si on veut faire quelque chose, faisons la chose bien. Ça, c'est faisons la chose bien. Puis on dit déclaration des biens, l'objectif c'est quoi? C'est de lutter contre la corruption.
La corruption.
Maintenant, pourquoi ne pas rendre ça public? Pour que tous les Togolais sachent que, bon, tel ministre ou bien tel commis de l'État, en venant à son poste, il avait telle chose. À la fin, c'est à tout le monde de juger, puisque nous connaissons leur salaire. Est-ce qu'il a eu à détourner? Est-ce qu'il a eu à bien gérer? Bon, que ça est. Et c'est pour cela que... tous ces blablabla, aller encore sensibiliser, ça ne vaut même pas la peine.
Ça ne vaut pas la peine. Alors, nous quittons ce sujet alors de déclaration de biens et nous nous intéressons à un autre sujet. Le Manya Libéré, ce matin, titre à sa une, région des savanes, réseau de vente de l'essence frelatée aux terroristes, le général Yak Damram trop peiné et embêté. Abbas, qu'est-ce qui embête le général alors dans cette histoire?
C'est le général lui-même qui l'a déclaré, parce que par rapport à cette situation, vous voyez que nous sommes frappés de plein fouet depuis quelques temps, surtout dans le nord du pays, par cette histoire de terrorisme. Et que normalement tout le monde devait apporter sa contribution, sa pierre à la construction pour que on puisse venir à bout de ce terrorisme. Mais il s'est fait qu'il y a un constat amer qui a été fait dans la région des savanes. Ce sont les mêmes personnes, des gens qui sont là, ils vendent des carburants frelatés, ils vont acheter même les nourritures et autres par-ci, par-là pour aller les revendre aux terroristes. Donc ils sont de mèche avec les terroristes, et c'est ce qui embête le ministre Yak, qui a dit qu'il est peiné de voir que ce sont ses propres frères qui sont dans cette histoire où on va chercher, on cherche à combattre quelque chose, et qu'il y a d'autres soldats qui sont à côté qui les alimentent. Vous les alimentez, vous allez vous prendre de l'argent et ils reviennent vous tuer. Parce que à partir de ce que vous leur fournissez, ça leur permet de revenir commettre des actes criminels dans votre pays, de tuer vos parents et autres. Donc c'est ce qui est très embêtant. Parce que quand vous suivez la rencontre du chef de l'État avec la population de Savan, ou à laquelle le ministre avait assisté, où le chef de l'État dit que cette lutte ne peut pas être solidaire. La population doit être associée à cette lutte. Et que si on fait cette lutte seul, on ne pourra même pas arriver. Les FDS ne seront pas capables d'en finir avec cette chose. Il faudra la collaboration de tout un ensemble, de toute la population. Parce que les gens sont là, il se fait que certainement avec ce qui se passe, il y a des gens dans la localité, dans la région de Savan là aussi, qui hébergeraient ces terroristes. Donc c'est ça qui a amené le ministre à dire qu'il serait peiné, et que si ces personnes-là sont interpellées, ils iront directement en prison, parce que personne ne pourra intervenir dans leurs choses pour demander leur libération. Donc c'est une lutte commune, une lutte d'ensemble qu'on doit mener, mais on ne le fait pas. On voit que des gens, certains sont là. Bon, peut-être qu'ils vont dire qu'ils n'ont rien à faire et que c'est le créneau qu'ils ont trouvé pour se nourrir. Mais ce créneau-là qu'ils ont trouvé pour se nourrir, c'est que vous vous nourrissez, vous allez alimenter certains qui reviendront vous tuer. Donc c'est pour cela que je pense que l'État est en train de créer, le gouvernement est en train de créer des conditions. Il y a le programme d'urgence qui a été d'urgence pour refaire la résilience au niveau de la région
des savanes.
De la région des savanes. pour que au moins tout le monde puisse être occupé dans la région. Donc, si on t'occupe et tu arrives à trouver quelque chose à ramener à tes parents, à revenir à la maison pour manger, je suis persuadé que cette histoire va s'arrêter. Donc, il faudrait trouver les solutions à tous les niveaux pour que ces jeunes-là ne puissent tomber dans la nasse de cette terroriste. Parce qu'en le faisant, en vendant même les carburants frelatés, en allant même leur fournir de la nourriture, c'est qu'un jour ils pourraient être convaincus à faire partie des rangs des terroristes pour venir tuer leurs parents. Mmh. Je pense que c'est une bonne sortie du UNIS. Il faudrait les sensibiliser également, leur expliquer le bien fondé de la participation, de la collaboration de l'ensemble de la population contre ce terrorisme.
On a besoin de la sensibilisation, surtout dans ce cas, mais aussi créer même d'ailleurs des créneaux, des éléments qui puissent amener ces jeunes à avoir de l'emploi décent.
Oui, c'est pour cela que le gouvernement est en train de déployer dans la région un plan d'urgence. Mais je pense quand même que cette affaire est extrêmement grave. Si le patron de la sécurité du Togo, le ministre Yak, est en train de dire cela, ça veut dire que les faits sont avérés. Mais la pauvreté aussi talonne la région. Vous savez que les terroristes, c'est des gens qui ont des moyens. Ils ont des moyens et ils proposent aux jeunes quelqu'un qui n'a jamais vu 200 francs dans un village. Je dis 200 francs, 200 000 francs dans un village. On lui donne 200 000 francs, viens nous rejoindre avec Kalachnikov. Je pense quand même que il va croire que tout lui est permis. Maintenant, nous sommes tous des Togolais. En tant que Togolais, est-ce que tu dois prendre de l'argent pour aller fournir des renseignements, fournir des vivres, fournit des informations à ceux qui sont en train de tuer tes propres concitoyens? Et là, c'est là où intervient la culture civique. Je pense quand même que dans les écoles, le gouvernement, et ça, c'est valable dans toutes les régions du Togo, le gouvernement doit essayer de tout faire pour que la formation civique, avant c'était chaque mercredi on le faisait, l'instruction civique et choses là, pour que le Togolais se sente Togolais. Parce que quelqu'un qui se sent Togolais, qui sait qu'il est Togolais, il est protégé par le Togo, il mange à sa faim, il ne peut pas aller fournir de l'aide à ces terroristes-là qui viennent tuer ses propres concitoyens. C'est inconcevable. Dans certains pays, c'est inconcevable, surtout les pays occidentaux. Maintenant, faute de culture civique, les Togolais le font avec quelques billets de banque. On est là, on peut aller vendre, donner l'information à choses, alors que nous sommes dans le cadre d'une guerre asymétrique où c'est une nouvelle guerre que nos armées ne sont même pas préparées à cette guerre-là. Puisque l'ennemi est un peu partout, se fond dans la masse, il peut frapper à tout moment. Et donc, il revient quand même au gouvernement de déployer dans toutes les régions d'ailleurs, aider les jeunes à se former, à s'occuper pour que les jeunes puissent avoir quelque chose sous la main pour ne pas se diriger vers les terroristes.
Sylvain, est-ce que c'est pas la question du civisme tel que Joachim le disait tout à l'heure? Est-ce que c'est pas cette question même d'ailleurs qui se pose?
Oui, c'est cela. Mais devant l'espèce sonnante et trébuchante, certains tuent leur conscience et l'enterrent, quoi. Voilà, c'est ce que nous voyons et très souvent, où des gens peuvent même comploter contre leur propre pays. Nous avons connu dans ce pays quelqu'un qui est parti dire à la CAF que son pays a triché lors donc de la CAN 2007 et le pays a été sanctionné. Vous voyez, c'est cela, quoi. C'est cela, c'est le genre de personnage que nous avons. Mais malheureusement, il faut tout pour faire une société. Mais de grâce, il faudrait quand même qu'ils comprennent que une nation, c'est une nation. Encore que, je ne sais pas si le Togo est une nation. il y a quelqu'un de mieux indiqué qui pourra quand même nous le dire ici. Donc, il faudrait une bosse d'eau de culture civique. Hein, ne complétez pas contre votre pays parce que on vous donnera quelques billets après. Vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Parce que ce que le général Yak dit, c'est important. Vous ne pouvez pas aller vendre du carburant aux terroristes. Parce que s'ils sont en pénurie, ils ne viendront pas attaquer.
Non.
Vous ne pouvez pas vendre du carburant aux terroristes et ils vont revenir vous tuer, vous égorger. Est-ce que vous-même, dans votre conception,
vous ne pouvez pas aller les alimenter. Maintenant, quand ils auront de la force, ils viendront vous tuer.
Donc, il faut lui dire que vous participez au terrorisme.
Vous participez. Et le journal a dit, si on prend quelqu'un dans ces conditions-là, aucun cadre ne pourra plaider sa cause. Aucun cadre ne pourra plaider sa cause. Donc, il revient donc à nos frères donc du Grand Nord, donc d'aider quand même les FDS, les forces donc de défense et de sécurité, d'aider quand même le gouvernement à ce qu'on puisse arriver à bout quand même de ce terrorisme là. Je l'ai dit, Joachim l'a rappelé tout à l'heure, c'est des gens qui sont là dans la nature, qui à chaque fois donc commettent donc des crimes contre donc nos éléments là, parce que ils sont pas entrés visibles où on peut les avoir facilement. C'est des gens qui sont là tapis dans l'ombre et qui sont au sein donc de la population. Et moi-même, j'irai peut-être plus loin que le général en demandant à ces éléments-là de plutôt donner des informations aux forces de défense là où ils sont et ils viennent prendre les carburants. Comme ça, on va aussi les attendre pour, comme ils aiment les embuscades, on va également leur tendre les embuscades.
Puisque quand ils fournissent même d'ailleurs de carburant à ces terroristes, ça veut dire qu'ils vont souvent à leur rencontre.
Oui, donc ça veut dire qu'ils connaissent les lieux. Donc c'est le lieu dont également d'informer nos FDS. On va également leur tendre des amusements. Comme ça, ils sauront.
Alors, nous allons quitter rapidement ce sujet. Nous parlons alors du 13 janvier 1963. Ça nous rappelle une date. On sait très bien que cette journée commémore bien évidemment la date de l'assassinat alors du premier président du Togo, Sylvanus Olympio. À la une du journal La Dépêche ce matin, le journal titre 13 janvier 1963. 63, une date qui pèse sur le présent des Togolais. Alors, pour l'occasion, nous avons un invité spécial pour cette émission, c'est Dr Foli Ekwegada. Il est enseignant-chercheur à l'université de Lomé, politiste, historien aussi. Docteur, bonjour.
Bonjour, cher ami Lossou.
Voilà. Alors, c'est vrai, quand on va un tout petit peu dans notre passé, on se souvient de cette date-là qui est le 13 janvier 1963. Et on se souvient également de l'homme qui a été assassiné le jour-là, Sylvanus Olympio. Pour devoir de mémoire, c'est qui, pour surtout pour la nouvelle génération, c'est qui Sylvanus Olympio?
Merci. Rapidement, je crois que le personnage n'est plus à présenter. Sylvanus Olympio a été le premier chef d'État et président de la République du Togo, rendue indépendante le 27 avril 1960 à travers la levée officielle de la tutelle des Nations Unies. Il a été d'abord un premier ministre de 58 jusqu'à 60, de 60 jusqu'en avril 61, il a été premier ministre. Et à partir des élections d'avril proclamées en mai 61, Sylvanus Olympio deviendra le président du Togo. Alors, je précise qu'il ne s'agit pas d'un personnage qui a atteint la magistrature suprême à travers des techniques de fraude, ni à travers des négociations qui le mettraient à une position qu'il ne mérite pas. D'autant que avant même sa libération, puisqu'il a écopé d'une peine, il était sous une sanction décrétée par Georges Pénal, l'administration française, qui l'empêchait d'exercer ses droits civiques et politiques. Et avant qu'il ne soit nommé par le haut commissaire français en 58 premier ministre, il y a eu beaucoup de tractations, parce qu'on voulait nommer Anani Santos premier ministre. Tous unanimement, aussi bien les juventistes que les cutistes, que moi j'appelle souvent les cutards, diront que c'est le seul qui peut diriger le pays. C'est comme ça qu'il est sorti de la situation dans laquelle il était, et il a été sacré premier ministre, il sera sacré président. Donc c'est un personnage qui a lutté pour que le Togo existe, parce que ça c'est une dimension qui est oubliée. Et beaucoup peut-être ont oublié que si Sylvanus Olympio il n'était pas seul, et les indépendantistes, moi je ne les appelle pas des nationalistes, indépendantistes n'avaient pas lutté, le Togo serait intégré dans le Dahomey, exactement comme la British Mandate of Togo est intégrée dans la Gold Coast devenue Ghana.
Ce qui veut dire que le Togo n'existera pas.
Il n'y aurait pas de Togo sur la carte du monde. C'est grâce à ces gens que le Togo, un Togo existe. Et c'est eux qui ont négocié de bout en comble la levée de la tutelle jusqu'à ce que le pays ait l'indépendance. Je rappelle aussi que l'adjectif togolais a été discuté en plénière à l'Assemblée territoriale. Et c'est eux qui ont décidé que les habitants de ce territoire s'appelleraient togolais s'il y avait plusieurs dénominations qui étaient en débat. Et c'est à partir de cet instant-là que l'on parle de togolais dans l'histoire. Donc c'est un personnage central pour ou dans l'histoire contemporaine de ce pays.
Un personnage central dans l'histoire contemporaine alors de ce pays. C'est vrai que l'homme aura passé seulement 2 ans, 9 mois, 14 jours au pouvoir. Quel est le bilan qu'on peut établir de cette période qu'il a eu à passer à la tête du pays?
Ben, il est difficile d'établir un bilan en quelques minutes, surtout oui. dans une émission comme la vôtre. Mais on peut dire que Sylvanus Olympio a beaucoup plus travaillé pour asseoir la République. Vous savez, c'est le début de ce que nous appelons le state building process, construction de l'État. Et il a voulu poser les balises économiques, donc macroéconomiques, les balises liées à l'exercice des prérogatives régaliennes sur le Togo. Le pays devait jouir, n'est-ce pas, des compétences de souveraineté. En fait, lui, il a croisé cette époque-là de notre histoire, l'époque où il fallait transférer les compétences de souveraineté au pays, les exercer, créer une tradition de pratique souverainiste. Et on peut résumer un peu son action dans ce bilan. Du point de vue social, il a essayé de créer, de mettre en place une philosophie de la prise en charge de soi, ce qu'on appelait le self-government. C'était la théorie sociale de Sylvanus Olympio. Et du point de vue du développement, il a basé le développement du pays sur la formation du personnel humain et sur l'agriculture. L'agriculture était au cœur de la politique économique de Sylvanus. Et la raison pour laquelle beaucoup de Togolais avaient été envoyés en Israël. C'était même le sens de la coopération togolo-israélienne à l'époque. Parce qu'il fallait apprendre comment mettre en valeur les terres dont nous disposions à l'époque. La jeunesse pionnière agricole. C'était vraiment la base. Et du point de vue de la défense, il y avait une philosophie de la sécurité qui était une sécurité collective. Donc il fallait juste mettre en place les unités nécessaires pour maintenir l'ordre social à l'intérieur du territoire, avec l'exception que la frontière togolaise devait être surveillée, supervisée, avec l'aide au début de la France et plus tard par l'armée togolaise qui aurait dû être créée. Donc, en termes de bilan, en relations internationales, Sylvanus Olympio, il a beaucoup fait. Il a beaucoup travaillé pour que le Togo puisse avoir sa monnaie. C'est grâce à la monnaie que l'on peut faire des échanges. C'est grâce à la monnaie que vous pouvez agir sur le chômage. Vous avez vu le miracle de Hitler, le miracle hitlérien, oui. En 33, quand il est venu, il crée le Deutschmark. Et avec le Deutschmark, il ramasse les prostituées, il les met au travail. Il n'y avait plus de chômage en Allemagne parce qu'il pouvait agir sur l'instrument macro-monnaie, l'instrument monétaire qu'est, l'instrument macroéconomique qu'est la monnaie. Vous fabriquez la monnaie chez vous, vous mettez les gens au travail, vous les payez. Et c'est ça que Sylvanus Olympio voulait. Et faire en sorte que le Togo n'ait point de compte d'opération et que les règlements extérieurs du Togo ne soient pas effectués par la France. Vous savez, toutes les contraintes d'ordre politique qui imposaient l'appartenance à la zone franc. Vous achetez des hélicoptères, c'est la France qui fait le règlement extérieur. Vous achetez des armes, quel que soit ce que vous faites à l'étranger, du point de vue commercial, c'est la France qui paye. Ça veut dire quoi? Vous êtes un pays souverain, mais une autre personne gère votre commerce international. Vous ne pourrez pas faire de politique. Parce que quand on voit votre budget, le budget c'est un instrument de politique. Quand on voit votre budget, ce que vous faites à l'étranger, on sait dans quel sens vous allez. Et c'est ça que Sylvanus Olympio ne voulait pas. Avoir un contrôle sur la gestion économique du pays. Donc il était en train de poser les bases pour un État qui sera souverain. C'est dans cette lancée qu'il a été assassiné.
Justement, docteur, pour ce qui concerne son ambition à avoir une monnaie pour le Togo, certains s'accordent à dire que c'est ce qui lui a valu même d'ailleurs son assassinat. Est-ce vrai?
Je ne peux dire ici que c'est vrai ou que c'est faux. Parce que il y a eu beaucoup de contentieux feutrés entre l'ancienne puissance administrante qu'est la France et le régime de Sylvanus. Mmh. Les contentieux sont nombreux. L'on dit que ce serait la monnaie qui a déclenché l'assassinat subit. Mais en réalité, on ne peut pas programmer, de mon point de vue, l'assassinat d'un chef d'État en 2 semaines. Et les archives montrent que, des archives dont j'ai fait publication dans mon ouvrage de 2018, montrent que c'est depuis 1961 que des échanges épistolaires entre l'ambassadeur Mazoyer et son ministre de tutelle parlait d'une possibilité d'élimination politique de Sylvanus Olympio. Élimination politique, pas élimination physique. Mais le but était de l'éloigner du pouvoir, parce qu'il gérait le Togo dans un sens où le pays ne pouvait plus être une variable d'ajustement de l'économie de la métropole. Et il y avait cette volonté-là. Maintenant, il y a aussi le Ghana. Il y a le Ghana. Le Ghana, n'oublions pas que le Ghana a financé un coup d'État le 1er janvier 1961. C'est le coup d'État manqué du Ghana qui a conduit Olympio à rencontrer Michel Debré le 14 décembre 1961, où Debré lui présente encore le paquet d'accords, un peu comme les accords qu'ont signé la Côte d'Ivoire, le Dahomey et autres. N'est-ce pas?
Tout à fait.
C'est grâce au coup à la faveur du coup d'État manqué du Ghana. Et c'est la gendarmerie togolaise dirigée par Maîtrier qui est allée prendre les conjurés dans leur maison. Parce que toutes les activités de l'armée ghanéenne et des insurgés étaient contrôlées par, étaient surveillées minutieusement par la gendarmerie dirigée par Maîtrier. Et justement, ça va apparaître dans les archives qu'en réalité, Maîtrier, la puissance française, jouait avec la menace ghanéenne pour faire pression sur la politique étrangère de Sylvanus Olympio. Et donc, il y a dans ça une complicité, il y a beaucoup d'acteurs. Donc on ne peut pas dire tout de suite que c'est grâce à la monnaie, les causes sont lointaines. Voilà.
Alors, finalement, pour...
Maintenant, un autre détail qui n'est pas moindre.
Justement.
Le groupe qui est allé chercher Sylvanus la nuit du 12 n'avait pas reçu comme instruction de le liquider physiquement. Les instructions disaient qu'il fallait le ramener au camp. Parce que dans leur idée, il fallait négocier une reddition de sa part. Ou soit il souscrit aux conditions des demi-soldes et il se soumet à l'autorité ou à la politique que la France voulait faire au Togo et il restait au pouvoir ou il refuse et on le sortait du pouvoir. Seulement, il y a eu des coups de feu qui n'étaient pas prévus dans le plan qui avait été remis aux soldats togolais. Il y a eu un plan dans le plan. Il y a eu un autre acteur dans le plan qui a osé tirer sur le chef de l'État. Voilà. Maintenant, celui qu'on appelle Nassim Beya Demba n'était pas là, n'était pas présent. Je suis formel là-dessus, il n'était pas présent. Il est apparu après. Voilà.
Alors, c'est vrai que par rapport à ce bilan, hein, à ce bref bilan que vous avez présenté maintenant, on a compris quand même que Sylvanus Olympio était un homme ambitieux pour son pays. Est-ce que cet héritage-là, on a compris que cet héritage aussi n'a pas eu une continuation dans le temps. Est-ce que c'est parce que cet héritage a été si lourd que les uns et les autres, ou les successeurs surtout, n'ont pas pu supporter pour continuer?
Oui, il faut dire que Sylvanus Olympio, dans sa gouvernance, était de l'école platonicienne. Vous savez que toute l'histoire politique est divisée en deux grandes mouvances. L'école platonicienne et l'école aristotélicienne. Dans l'école platonicienne, on conçoit la cité, l'État, la société, comme devant être plasmée ou forgée suivant un modèle idéal. Pas idéal, idéal. Ce modèle idéal, il se trouve dans la tête du leader. Il visualise un pays qui est différent du réel. Et il veut faire monter la réalité à l'étape de cette idée qu'il a. C'est les platoniciens qui gouvernent comme ça. Il voit le pays ne lui plaît pas. Il a une idée du pays qui est avancée. Il va vous conduire vers cette idée. Pour faire ça, il ne faut pas être seul. Il faut avoir un seuil de bascule démographique et intellectuel d'acteurs de bascule nécessaires. Si vous le faites seul, le peuple pour lequel vous le faites même vous assassinera, vous rejettera.
Parce que ce peuple ne va pas vous comprendre.
Justement. Donc, il était dans cette vision platonicienne de la gouvernance. Les aristotéliciens, eux, c'est autre chose. La cité ne se conçoit pas, n'existe pas dans un monde intelligible des idées. La cité se conçoit à travers les dynamiques réelles, des contraintes pratiques. Donc le modèle idéal de la cité émerge à travers les frictions de la société et des forces motrices. Et Sylvanus Olympio n'était pas comme ça. Sinon, il aurait gouverné un peu comme gouvernait tout le monde. Les gens, ils veulent beaucoup manger, vous laissez manger. Ils sont à ce niveau-là. Vous les conduisez, vous-même vous êtes avancé, mais vous savez que vous dirigez un troupeau de personnes et qui sont au niveau du ventre, un peu comme dit Platon, la partie désirante qui est le ventre, la partie charnelle, vous avez un peuple de charnelle, vous êtes avancé, mais vous le laissez vivre dans la débauche, parce que si vous voulez les changer, ils vont vous se lever contre vous. Et je crois que c'est la gouvernance de Nassim Bey Adeyemo. Il n'a pas fait forcing, violence au peuple. Il a laissé le peuple vivre dans ses passions. Il a gouverné un peuple comme ça. Et c'est avec l'évolution de la pensée du peuple que l'on peut changer de niveau. Et c'est pour cela que des parleurs comme vous, comme nous, sont nécessaires pour l'avancement, l'évolution des cités. Avec le discours de la raison, on modifie les consciences et on permet aux gouvernants d'élever le niveau, n'est-ce pas, de l'éducation civique, ainsi de suite. Donc Sylvanus, il a été piégé en griffe par sa propension platonicienne de la gestion de la cité.
Docteur Sylvestre a une question pour vous.
Oui, justement, le docteur disait tout à l'heure que Yassine Bey Adeyemo n'était pas là à l'époque. Nous tous nous le savons, Yassine Bey Adeyemo n'était pas là. Mais est-ce que à l'époque, le sergent Étienne Adeyemo était là? Ça, c'est ma première question. Et l'autre, c'est que le secrétaire d'État français, notre compatriote Kofi Nyamnyam, disait au cours donc d'un échange avec la presse, il disait que c'était l'adjudant-chef Bojolé qui a tiré sur Sylvanus Olympio, selon l'histoire. Est-ce que vous avez eu vent quand même donc de cela, de ce nom-là, l'adjudant-chef Bojolé?
L'adjudant-chef Bojolé était du groupe, mais il n'a pas tiré sur le président. Pas du tout.
Le sergent Étienne Adeyemo.
Il n'existe pas de sergent Étienne Adeyemo le 13 janvier 63. Il existe un certain Étienne Adeyemo. Du point de vue de l'état civil, c'est deux personnages différents. Parce que quand vous allez à la trace de ces personnages dans les archives, vous avez deux parcours différents. Et il faut une enquête plus sérieuse sur, au niveau de l'état civil, sur le personnage. Parce que c'est très facile qu'un personnage soit remplacé par un autre par des jeux de noms. D'autant que les archives présentaient ce personnage-là, Adeyemo, comme un civil. Ce n'était pas un militaire. Il a servi dans des garnisons françaises, mais comme civil. Vous comprenez. Alors que le Nassim Bey Adeyemo Étienne, que l'on nous présente, il est militaire. Et lui, il intervient dans l'histoire à partir ex nihilo. C'est comme ça. Maintenant, on a essayé de reconstruire un peu son passé à travers des récits pour lesquels nous n'avons aucune trace historiographique. Donc, le personnage lui-même, il mérite une recherche d'histoire approfondie. Et c'est pour cela que nous allons avec beaucoup de prudence lorsque nous voulons identifier, nous parlons de l'identification de celui qui a tiré. Dans tous les cas, celui qui a tiré sur le président, j'affirme qu'il n'est pas togolais. Maintenant, celui qui, par contre, a taillé les veines, il est togolais. Parce qu'il y a eu, deux phases. La phase où le président a reçu les balles et la phase où, pour qu'il meure, parce qu'il ne pouvait pas mourir avec les balles.
Tout à fait.
Pour qu'il, quel que soit le nombre de balles qu'il reçoit, il ne pouvait pas mourir. Vous savez que ça existe.
Tout à fait.
Et il faut le vider de l'âme, de son âme, c'est-à-dire du sang. Une fois que le sang est sorti, quelle que soit la magie que vous avez, vous pourrez plus vivre.
Voilà. Docteur Abbas a une question pour vous. Rapidement, Abbas.
Ouais, non, juste pour savoir, parce que au lendemain de cette tuerie, de cet assassinat, on a dit que c'est un certain Adeyemo qui a revendiqué.
Oui.
l'assassiner avant de se retraiter en 1992,
oui.
Dans un livre. Qu'est-ce qui en est par là?
Oui. D'abord, il faut remarquer que...
C'est-à-dire à Paris, Brache de 63, il y avait un certain sergent Étienne et Adéma qui avait revendiqué l'attaque avant de se dédire en 92, en disant qu'il y avait quand même d'autres personnes dans la hiérarchie et que ce n'était pas lui.
Oui, c'est vrai qu'en 92, dans un opuscule, le président Nassimbe et Adéma, que nous connaissons, a fait écrire qu'il n'était pas l'auteur de ce crime. Mais entre le 13 et le 14, le 15 janvier, on a ce sergent qui a déclaré un peu partout, Africa numéro 1 fonctionnait encore à l'époque, que c'est lui qui a descendu le chef de l'État. Mais il faut comprendre que même les déclarations de ce sergent ne pouvaient pas être fiables. Parce que quand vous faites l'histoire, il faut vivre l'histoire comme dans de l'événementiel. Aucun militaire mal gradé, aucun militaire mal gradé ne peut se pavaner dans les rues, sur les médias, comme ça, pour revendiquer l'assassinat d'un chef d'État, un président élu, qui était d'ailleurs le chouchou de la communauté internationale. Vous faites ça, vous fuyez, vous attendez après l'orage pour ressortir. Donc si vous le faites comme ça, c'est clair que vous êtes en mission pour empêcher les mondes de la raison d'aller au-delà de votre personne pour comprendre qui a fait le coup. C'est simple. Il n'y a pas d'autre grille de lecture.
Excusez-moi,
en 92, il faut aussi situer le contexte dans lequel le président est revenu sur cette histoire. Il y avait un contentieux sérieux entre la France et le Togo.
Tout à fait.
Parce que la France était en train de revoir les cartes. Est-ce qu'il fallait continuer avec Eyadema ou il fallait mettre un opposant au pouvoir? En ce moment-là, il y avait le doute. La coopération franco-togolaise flottait. Vous savez que l'ambassadeur français, c'était lui qui avait envoyé les deux officiers qui protégeaient Kofi Go à l'intérieur de la primature. Il y avait deux Français qui ont tiré, qui étaient là, qui le protégeaient contre les assaillants. Ils venaient d'où? Ils étaient de la coopération française. Alors si la France protégeait le Premier ministre, qui était de l'opposition, avant la reddition de Kofi Go, ils étaient en confrontation. Et la France était aussi avec Eyadema. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est dans cet embrouillamini, cette incertitude, que le général est revenu pour dire finalement sa vérité. Et lorsqu'il a commencé par parler, bien les cartes ont été rebattues. Et Edem Kodjo lui-même a été contraint à se retirer. Et Adema a été maintenu au pouvoir. Et c'est là où vous pouvez comprendre la géopolitique de ce qui se passe. Et Adema Nassimbe n'a pas tué Sylvanus Olympio.
Alors, docteur, il y a les auditeurs aussi qui sont très impatients et qui vont nous appeler tout de suite et vous poser alors des questions. Alors, mais tout d'abord, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs et nous revenons juste après. Et après tout, nous allons vous donner également l'opportunité à Joachim de poser sa question. 93.5. Retour dans cette émission Club de la Presse. Nous avons débattu de beaucoup de sujets aujourd'hui. Je vous rappelle que Dr Foli Kouigada, enseignant-chercheur politiste et historien, est encore avec nous, toujours avec nous. Et maintenant, je vous laisse alors l'opportunité de poser des questions sur le 22 21 33 74, 91 36 63 75. Premier auditeur, allô?
Oui, bonjour chef.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, je vais très bien.
Le nom, c'est?
C'est Sylvain.
Sylvain, allez-y.
Oui, je salue le docteur.
Merci.
Et mon souhait que d'ici le 13 janvier 2024, qu'il se concerte, des historiens, des docteurs, qu'il se concerte, pour qu'en fait, on a une histoire vraie de ce monsieur. Parce que d'autres aussi parlent au nom de l'archive. Chaque année, d'autres aussi parlent au nom de l'archive. Nous, on veut d'ici le 13 janvier prochain une vraie histoire de ce monsieur. De deux, pour cette déclaration des biens, c'est plus qu'un dilatoire. Vous l'avez dit que c'est du dilatoire. C'est pas du dilatoire. On n'a même pas de l'adjectif qualificatif pour ce système. On va sensibiliser qui? Et on va consacrer un budget pour cette sensibilisation. Mais on est où là? On est où? C'est plus que du dilatoire. Merci.
Merci beaucoup Sylvain. 22 21 33 114. Allô.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur Gado.
Ah, comment allez-vous?
Ça va, et chez vous?
Ça va très bien.
Allez-y.
Vous savez, l'ambassadeur de soi était sur vos antennes avec Sas Gaou et je lui avais posé la question. Pourquoi l'ambassadeur allemand plutôt. Je lui ai demandé pourquoi ils n'ont pas laissé leur compatriote Hitler terminer avec la France. Et aujourd'hui, on n'aura pas ce problème. Est-ce que j'ai raison ou pas? Merci, bonne journée.
Bonne journée, M. Gado. 22 21 33 114. Allô? Bonjour. Allô? 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Oui.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, c'est...
C'est Pelé. Hein?
Pelé, oui, allez-y, Pelé.
Je salue Docteur.
Oui.
Ok, je pense qu'il est temps, par exemple, qu'on connaisse la vérité.
Pelé, Pelé. Allô, Pelé?
Oui, allô?
Oui, nous avons du mal à vous écouter. 22 21 33 114.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Oui. Bonjour.
Ouais. Bonjour.
Oui.
Bonjour. Bonjour. Oui.
Corneille.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
Ouais. J'appelle d'Avedi.
Avedi, allez-y, Corneille.
Ok, bon, c'est juste pour demander au monsieur qui a fait l'exposé sur Surveillance Olympique là pour savoir si ce n'est pas Étienne Yadema qui l'a tué. Qui est la personne exacte qui l'a tué? Puis depuis longtemps, on n'a pas eu de nom. On ne sait pas s'il pourra nous donner exactement comme lui le connaît. Et puis le nom de du Togolais qui a réussi à trancher les veines. De Sylvanus Olympique aussi, qui pourra nous aider aussi à nous, jeunes, à pouvoir connaître un peu l'histoire, la vraie histoire du Togo aussi. Ça, c'est aussi intéressant.
Merci beaucoup, Corneille. 22 21 33 114. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonne année à vous.
Merci beaucoup. Le nom, c'est
Comi,
voilà. Comi, vous nous appelez de quel quartier?
Alors, présentement, je suis vers Azidogomé.
Azidogomé, allez-y.
Oui. Je salue le docteur. Je lui attends que je l'ai ciblé parmi les jeunes historiens qui peuvent nous aider, nous, la jeunesse. C'est parce que les anciens ont peur de nous relater la vérité pendant au moins 60 ans. À lui et M. Koukou, tous ces anciens qui prennent leur courage à eux-mêmes pour nous dire réellement ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour se venger, mais pour savoir là où nous allons. Et la question pour lui, à chaque fois qu'on parle de Sylvanus Olympio, on parle plus de l'assassinat. Mais on ne nous parle pas de la personnalité, de son plat culturel, social, économique et son bagage intellectuel. Est-ce qu'il a des connaissances scientifiques? Maintenant, sur les sujets que vous avez débattus, j'aimerais dire que point. Le premier, c'est la déclaration de bien.
Oui.
Quelqu'un disait tout à l'heure que le fait est venu au moment où les gens sont en fonction. Je pense que Awanana même est en fonction avant que le test ne vienne. Mais elle s'est conformée au test. C'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique de le faire. Et quand on refuse ainsi, c'est que le gouvernement nous dit indirectement que nous sommes là pour le détournement des biens publics, nous sommes là pour l'impunité, nous sommes là pour, comment dirais-je, que les choses n'aillent, nous sommes là pour la corruption. Bref, c'est ça. Le second sujet qui m'intéresse aussi,
allez-y rapidement.
Pour finir, c'est lorsque le général Jacques nous dit qu'il est peiné et qu'il se voit embêté. Plutôt, je lui remets la question, comment lui et son régime ont pu diriger le pays pendant 60 ans, qu'on n'a pas de station d'essence dans ces zones. Moi, par exemple, dans mon village, 60 ans que le Togo fait, on n'a pas encore des stations d'essence. Les jeunes ne sont pas
occupés. Votre village, c'est où?
À Gou. Je ne pense pas qu'un jeune peut savoir que celui-ci est un djihadiste et va vouloir lui vendre de l'essence. Ils ont agi dans l'ignorance. Et quelqu'un qui pourrait nous aider, qu'on puisse, ne puisse pas arriver là, c'est le gouvernement en place. Ils nous ont laissé pendant des décennies dans le chômage, dans le désarroi, et ne pas nous donner les infrastructures adéquates. C'est de ça qu'il s'agit.
Merci beaucoup, Kambi. Merci à notre auditeur, 22-21-33-114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
C'est Armand.
Armand, allez-y.
Bonjour, le plateau.
Oui, bonjour.
Oui, j'aimerais dire que, concernant les jeunes qui vendent le carburant, il va falloir que... Bon, on dirait que les jeunes là ne sont pas vraiment conscients. Ils ne savent pas de quoi toute cette histoire retourne. Il va falloir les rappeler à l'ordre. Et pour revenir un peu à notre premier président, Ivanos Olympio, j'aimerais se demander, étant bien panafricaniste comme Nkrumah, au fond, qu'est-ce qui les opposait? Est-ce que c'est l'histoire des Zélandes là qui les opposait ou bien il y avait quelque chose d'autre? Merci.
Merci beaucoup, Armand. 22-21-33-114. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Benoît Dever.
Oui, Benoît, allez-y.
Et bon, je vous ai entendu, je remercie le docteur. Et moi, dans ce qui concerne la vente du pistolet, quand vous prenez la voie, il est parti. En allant à GPR, combien de nombres de stations on a? Alors que le général nous dit qu'il est permis. Qui sont les détenteurs de telles stations d'essence et qui les créent? En ce qui concerne la déclaration des biens, vous savez, il faut une seule chose. Le président français l'a dit en 2017 et 2018. Que l'élection va déterminer les choses, va éclaircir les choses. Si nous n'organisons pas une élection libre et transparente, une liste fiable, rien ne se la vérité, comment dire ça? Et la vérité,
Merci beaucoup, Benoît. Bonne journée. Nous recevons le dernier auditeur, bien évidemment. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, Papa Sodiné.
Voilà.
Oui.
Je salue le plateau.
Merci.
Mon inquiétude est que, bon, le gouvernement, là, il veut sensibiliser qui? C'est ceux qui vont déclarer leurs biens. Bon, il faut utiliser l'argent du peuple pour aller au nord ou bien au sud ici pour sensibiliser qui? Concernant leur déclaration, la déclaration de leurs biens. Merci.
Merci beaucoup, Papa Sodiné. Je pense que vous êtes le dernier auditeur dans cette émission. Nous revenons ici en studio. Docteur, il y a beaucoup de questions que les uns et les autres vous ont posées. Et je sais que si c'est que nous avions encore assez de temps, on aura assez de questions alors pour cette question ou cette histoire alors de Sylvanus Olympio. Alors, Corneille, qui veut savoir que quelle est la personne même qui a tué Sylvanus Olympio aussi? Vraiment, nous disons que ce n'est pas Etienne Yadema, et qui l'a tué?
Bien, c'est difficile que nous donnions le nom de quelqu'un ici. Parce que ce n'est pas celui qui a tiré qui a tué. Nous parlons d'un homme d'État qui est décédé à cause de ses politiques publiques.
Tout à fait.
Pour ce genre de phénomène, je l'avais dit entre-temps, il y a au moins quatre niveaux d'acteurs. Les concepteurs, les fournisseurs de la logistique, ceux qui ont travaillé sur le terrain et l'exécutant final. C'est une chaîne qui a assassiné le chef de l'État. Donc, si vous prenez la personne qui a tiré, vous la mettez en prison, vous n'avez rien fait. Parce qu'il arrive souvent même que cette personne ne sait rien de la raison pour laquelle le personnage pour lequel il est missionné doit mourir. Donc, l'enjeu, c'est pas de dire qui a tué. Mais l'enjeu, c'est de dire qui sont ceux qui ont comploté. Quelle est l'histoire vraie et comment nous autres aujourd'hui, nous devons nous conduire connaissant ce qui s'est passé dans le temps. C'est ça en fait l'enjeu. Et les données que j'ai exposées ici sont extraites d'un ouvrage que je suis en train de finaliser, dont le titre est « Qui a tué Sylvanus Olympio ?» Je demande à l'auditeur d'être patient.
Vivement que cet ouvrage alors sort rapidement pour d'être que patient. Nous lisions alors cela. Alors Sylvain qui demande plutôt une concertation de la part des historiens que vous êtes, qu'il est très important que vous vous concertez pour nous donner la vraie mouture alors de l'histoire du Togo.
Non, la communauté scientifique sur des questions comme ça ne fonctionne pas par consensus. Ici, il s'agit, l'historien quand il travaille à partir des matériaux. Il s'agit d'archives contre archives. Donc, une fois que vous avez rassemblé les documents suffisants pour faire une inférence correcte, vous publiez. Et c'est peut-être à partir de ça qu'un débat historiographique peut naître. Et la vérité va s'imposer. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de réunion. C'est pas une histoire sociale ou de l'histoire culturelle où il faut que les historiens s'entendent une version conventionnelle qui est utile pour la gestion de la cité. Non. C'est une question précise et c'est une affaire d'archives contre archives. J'ai entendu quelqu'un dire que certains ont parlé d'archives. Nous parlons aussi d'archives. Faisons le distinguo. Les archives dont nous sommes en possession sont assez explicites. Il y a les déclarations de plusieurs ambassades dont nous sommes en possession. Et il faut savoir que moi, lorsque j'ai été à Nantes, j'étais le premier historien togolais à émerger sur les dossiers liés à Sylvanus Olympio. J'étais le premier. Et les archives dont parlait monsieur l'avocat de monsieur Jean Olympio, je ne les ai pas vues, je ne les ai pas lues. C'est pour cela, je crois d'ailleurs que nous devrions prendre avec beaucoup de pincettes ces déclarations intempestives et attendre que le temps arrive pour que cette histoire soit élucidée avec toutes les preuves irréfutables.
Alors, il y a Combi d'Adido Gombe qui veut savoir aussi que mais d'habitude, quand on parle alors de Sylvanus Olympio, le point où le focus est toujours mis sur son assassinat, mais pour ce qui concerne surtout sa personnalité sociale, culturelle, politique, que l'accent n'est pas toujours mis sur ces aspects.
Ben, nous en parlons. Peut-être que l'assassinat a plus d'écho, parce que c'est l'aspect plus tragique.
Tout à fait.
Mais nous en parlons. Je crois qu'il y a même en cours une série d'émissions sur Radio Lomé, les jeudis de 22h45 à 23h, en 16 émissions, 16 numéros, sur des différents aspects de sa vie, de son parcours.
Alors, finalement, puisque notre temps est presque arrivé à sa fin, aujourd'hui, si c'est l'héritage que Sylvanus Olympio nous a laissé, comment allons-nous faire pour que, du moins, en matière de gouvernance, en matière sociale, en matière culturelle, en matière politique et tout, que cela soit pérennisé?
Ce qu'il faut retenir, c'est que Sylvanus Olympio avait une philosophie politique claire. Si vous questionnez la gouvernance de plusieurs États africains aujourd'hui, le nôtre compris, vous ne trouverez pas de philosophie politique claire. Or, c'est à partir d'une philosophie politique majeure qu'il faut inférer les différentes stratégies dans différents secteurs de gouvernance. Ça, nous le retrouvons de façon claire et explicite chez lui. Et c'est sur la base de cela qu'il faisait l'économie, il faisait la culture, il faisait le social, il faisait les relations internationales. Tout était ordonné. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça faisait peur. Parce que c'est un corpus cohérent. Je crois que c'est l'héritage le plus important. Aujourd'hui, nous parlons du plan de développement. Et on quitte un plan à un autre. Nous expérimentons une gouvernance à projet. Où les départements ministériels ont des projets avec des budgets. Ce sont des expériences. Mais je ne vois pas de politique, de philosophie économique, par exemple. On ne voit pas de philosophie économique. On ne voit pas comment, à partir d'un filon unique, le pays est gouverné. Ça, je crois que c'est ce qu'il faudrait retenir. Et c'est le travail des hommes de raison, les gens qui conceptualisent, qui réfléchissent et qui produisent des plans aux décideurs politiques. Il faut qu'on en arrive là, pour qu'il y ait une cohérence. Et c'est justement à cause de l'absence de cette ligne que les alternances politiques sont mauvaises pour nos États. Parce qu'il n'y a pas de ligne que nous suivons. Si un chef d'État vient, il change. Un autre chef d'État vient, il change. Alors qu'il faut que les acteurs politiques se mettent ensemble pour décider de la philosophie politique, économique, culturelle de ce pays, et tous les leaders qui viendront vont, dans le temps qui leur est imparti, faire une partie de ce programme. Mmh. Et le peuple sera uni autour d'une ligne. Voyez un peu ce qui se passe dans les rues de Lomé, où nous avons depuis 5 mois de grandes affiches où l'on voit des formes qu'on ne voyait jamais à Lomé, des hommes et des femmes dans des positions très intimes,
tout à fait,
à 2 centimètres de s'embrasser dans nos rues à Lomé. Ça pose le problème de l'importation de modèles culturels qui sont en train d'échapper au contrôle de la hack. Et si on ne fait pas attention, c'est comme ça qu'à partir de la base, la population se modifie, les mentalités se modifient. Et ceux qui sont dans ce secteur, ils savent ce qu'ils font. Les transformations des sociétés ne se font pas par la violence. C'est du soft power à travers la culture. S'il y avait une politique, une philosophie culturelle que une instance du pays protège, que ce soit au niveau du Sénat ou une commission spéciale dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale, qui veille à cela dans le pays, il y aurait du contrôle. En fait, il nous manque une philosophie politique de gouvernance.
Une vision claire.
Une vision claire.
Merci beaucoup, docteur, d'être passé dans cette émission. Sylvie, est-ce que nous allons finir rapidement, si vous avez un commentaire?
Non, j'ai pas de commentaire. Je crois que le temps est suffisamment parti. Donc, dommage que nous n'avons pas assez de temps, sinon on aurait quand même pu décortiquer, pu intervenir quand même sur le sujet. Donc voilà, peut-être que je termine par là où le docteur a chuté, en parlant donc de politique culturelle, en parlant donc d'une idée culturelle donc de ce pays. Oui, moi ce matin, je donne juste l'exemple, je passe au niveau donc de GTA, j'ai vu des étudiantes en culotte, à Tacqueville comme on le dit, aller à l'université, c'est pas digne. Vous ne pouvez pas aller donc à l'université. L'université, c'est la maturité. Vous ne pouvez pas aller à l'université en étant en culotte, en attaque de vie. C'est pas digne donc des étudiants. Et même, je fais quand même reproche aux garçons, aussi bien aux garçons comme aux filles. À l'université, c'est la maturité. Donc, je veux véritablement qu'au niveau donc du temple du savoir, comme je le dis très souvent, qu'on puisse véritablement corser l'addition. Quelqu'un qui vient à Tacqueville, mettez-le dehors.
On reçoit rapidement aussi votre carton de fin d'émission.
Mon carton, c'est le carton rouge, donc à ceux qui vont à l'université à Tacqueville.
Merci beaucoup. Alors, Abbas.
Il n'y a plus de commentaires parce que le temps est arrivé presque.
Les cartons.
Le carton rouge à tous ceux-là qui sont pressés dans la circulation. Parce que c'est toujours un oubli, on ignore que c'est ça qui est la cause des accidents mortels. C'est-à-dire que les gens sont pressés, ils ne veulent pas, ils croient qu'ils ont la priorité, ils violent les feux rouges. Ceux qui sont pressés là, carton rouge. Hein.
Merci beaucoup, Joachim.
Moi, je n'ai pas de carton, je voudrais juste simplement rappeler aux fidèles lecteurs du magazine panafricain Matin International que le nouveau numéro est dans les kiosques avec des sujets croustillants, notamment Fonia Singbe, l'homme de l'année, l'évaluation de l'action gouvernementale. Et donc, j'invite les lecteurs à se ruer dans les kiosques au Togo et dans l'espace UEMOA pour s'acheter un numéro.
Merci, Gadiel.
Non, mais moi, cette année, c'est un carton d'encouragement. On va trouver un carton d'encouragement.
Ah, aussi, peut-être que vous le créez comme ça.
Un carton vert, on ne sait pas. C'est, ou bien un carton de prière à Ibomov, à voir l'éclairage de la route, de cette nouvelle route qui est faite, de la route Lomé-Palimé. La lumière est devenue, c'est le système guirlande. Aujourd'hui, ça s'allume, demain, ça ne s'allume pas. Et on ne comprend plus rien. Donc, on les encourage vraiment à voir ça, parce que cela ne nourrit pas la ville de Lomé. Franchement.
Merci beaucoup, Gadiel. Merci, Sylvestre, d'être passé dans cette émission. Abbas, merci. Joachim, merci. Gadiel, merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomiga qui a assuré la mise en onde de cette émission. Jérôme Dakuta a assuré la mise en onde. Je suis Pascal Lossou. On se retrouve vendredi.